les concours impériaux chinois, lettrés, propriétaires et guerriers. Plus généralement, l'État Qing se devait de veiller de près à un certain équilibre entre la classe guerrière et les autres groupes sociaux chinois. En pratique, il était cependant surtout attentif à l'équilibre entre les élites. Cela valait notamment pour l'organisation du système des examens impériaux, qui fit l'objet de réformes incessantes au cours de sa longue histoire, en fonction des rapports de force entre les groupes en présence. Ces compromis sont intéressants, car ils expriment à leur façon la recherche d'une forme d'équilibre entre, d'une part, la légitimité du savoir, et d'autre part, les légitimités propriétaristes et guerrières. Le recrutement des fonctionnaires se faisait en plusieurs étapes. Il fallait tout d'abord réussir les examens organisés 2 années sur 3 dans les différentes préfectures de l'Empire, permettant d'obtenir la licence, Shenguan. Cette licence ne donnait pas directement droit à un emploi public, mais elle donnait la possibilité de se présenter ensuite aux différents concours de fonctionnaires au niveau provincial et impérial. La détention de la Shenguan conférait également des privilèges légaux, politiques et économiques, par exemple pour témoigner en justice dans les procédures juridictionnelles ou pour participer aux instances communales, et un important prestige social, y compris pour tous ceux qui ne devenaient jamais fonctionnaires. D'après les recherches disponibles, sur les bases des archives de ces examens et des listes de personnes, on peut estimer qu'environ 4% des hommes adultes disposaient au XIXe siècle d'une éducation classique, au sens où ils avaient une maîtrise avancée de l'écriture chinoise et des savoirs traditionnels, et où ils s'étaient présentés au moins une fois à l'examen pour obtenir le Shenguan. Sur ce total, environ 0,5% des hommes adultes réussissaient l'examen permettant de détenir la précieuse licence. Un second groupe de personnes avait toutefois le droit de se présenter directement au concours pour devenir fonctionnaire, celle qui avait acheté une licence, Jian Cheng. L'importance de ce groupe s'est accrue au cours du XIXe siècle. Il représentait l'équivalent de 0,3% des hommes adultes dans les années 1820-1830, et près de 0,5% dans les années 1870-1880, presque autant que ceux qui avaient effectivement obtenu la licence. Une exploitation récente des archives de la province de Jing'an a permis de montrer que ce mécanisme conduisait à accroître significativement la reproduction sociale dans la sélection des fonctionnaires. Cela permettait à des fils de propriétaires et de classes fortunées d'avoir une chance d'être recruté sans passer les difficiles épreuves de l'examen de licence, tout en procurant d'utiles recettes à l'État, d'où la justification de cette pratique. Les archives indiquent que la reproduction était également très forte au sein de la procédure classique. L'immense majorité des candidats qui réussissaient l'examen de licence et finissaient recrutés comme fonctionnaires impériaux ou provinciaux avaient eux-mêmes un père, un grand-père ou un aïeul ayant occupé des charges semblables, même s'il existait des exceptions, moins de 20% des cas. Cette possibilité d'acheter une licence répondait en partie aux difficultés budgétaires de l'État chinois au XVIIIe et XIXe siècle, et peut-être rapprochée des ventes de charges et offices et de nombreuses fonctions publiques dans la France de l'Ancien Régime, et de pratiques similaires dans de nombreux États européens. La différence toutefois est que dans le cas chinois, les détenteurs d'une licence achetée devaient en principe se soumettre au même concours que les autres pour devenir effectivement fonctionnaires, même si les soupçons de complaisance lors de cette étape ultime étaient très répandus, sans qu'il soit possible de dire jusqu'à quel point ils étaient exagérés. Ce système chinois se rapproche peut-être davantage de la pratique des plus prestigieuses universités états-uniennes qui, en ce début du XXIe siècle, admettent ouvertement que certains étudiants, les « legacy students », dont les parents ont fait des dons suffisamment importants, peuvent bénéficier d'une admission directe en dépit de leurs résultats scolaires insuffisants. Nous reviendrons dans les prochains chapitres sur cette question qui soulève des enjeux considérables pour la définition d'une norme partagée de justice éducative et sociale au XXIe siècle et qui illustre de nouveau le besoin de placer l'étude des régimes inégalitaires dans une perspective historique et comparative, y compris en comparant des pays, des époques et des institutions qui préféreraient parfois ne pas se comparer les uns aux autres. dans le cas des examens impériaux chinois. Il faut également ajouter une autre dimension essentielle et relativement mal connue des règles en vigueur à l'époque Qing. Environ la moitié des quelque 40 000 postes de fonctionnaires, l'équivalent d'environ 0,01% de la population chinoise totale au XIXe siècle et autour de 0,03% des hommes adultes, étaient réservés aux membres de la noblesse guerrière des bannières. En pratique, les membres de la classe guerrière passaient, suivant les cas, des concours spécifiques, parfois en langue mandchoue, afin de pallier leur connaissance insuffisante du chinois classique, ou bien pour certains postes des concours similaires à ceux auxquels étaient soumis les titulaires de licences réelles ou achetées, mais avec des places réservées pour les membres des bannières. Ce système de réservation à la chinoise, bien différent des quotas indiens en faveur des membres des basses castes développés au cours du XXe siècle, allait d'ailleurs bien au-delà des concours d'admission dans la fonction publique. Au sein de chaque administration et de chaque catégorie de poste, il existait également des quotas de places réservés aux membres de l'aristocratie guerrière, Manchu et Han, et aux lettrés et propriétaires issus des autres voies de recrutement. Ces règles faisaient l'objet de conflits multiples et de renégociations permanentes, mais pour l'essentiel, l'aristocratie guerrière réussit à maintenir ses avantages jusqu'à la chute de l'Empire en 1911, et les privilèges de type propriétariste, liés en particulier à l'achat de licences, se renforcèrent au cours du XIXe siècle et au début du XXe, en partie du fait des besoins budgétaires croissants de l'État Qing, qui devait acquitter une dette de plus en plus considérable aux puissances européennes. Révolte chinoise et bifurcation inachevée. Pour résumer, la société impériale chinoise était une société fortement inégalitaire et hiérarchisée, marquée par des conflits entre des élites lettrées, propriétaires et guerrières. Tous les éléments disponibles suggèrent que ces groupes se recoupaient pour partie. Les élites lettrées et administratives étaient également des propriétaires terriens recevant des rentes foncières du reste de la population, de même que les élites guerrières, et les alliances entre ces différents groupes étaient nombreuses. Pour autant, le régime était loin d'être figé. Outre les conflits entre élites, il fut marqué par de multiples révoltes et révolutions populaires qui auraient pu conduire la Chine à emprunter des trajectoires différentes de celles qui a finalement été suivie. La plus spectaculaire et la plus sanglante fut la révolte des Taiping, 1850-1864. Il s'agissait initialement d'une révolte de paysans pauvres, refusant de payer les rentes aux propriétaires et occupant illégalement des terres, comme il y en eut tant d'autres. Ces révoltes étaient courantes depuis toujours, mais elles s'étaient multipliées et menaçaient de plus en plus fortement le régime à la suite de l'humiliante défaite face aux Européens lors de la première guerre de l'opium, 1839-1842. De fait, la révolte des Taiping manqua de très peu de renverser l'Empire Qing en 1852-1854, lors des premières années du mouvement. Les révoltés établirent leur capitale à Nankin, près de Shanghai. Un décret du nouveau régime prévoyait en 1853 une redistribution familiale des terres suivant les besoins et commença à s'appliquer dans les régions contrôlées par la rébellion. Le 14 juin 1853, Karl Marx annonça dans un article publié dans la New York Daily Tribune que la révolution était sur le point de triompher et que ces événements chinois allaient provoquer des secousses considérables dans le système industriel mondial avec à la clé des révolutions à la chaîne en Europe. Le conflit se transforma rapidement en une gigantesque guerre civile dans le centre de la Chine, opposant les forces impériales basées au nord, elles-mêmes issues d'un état relativement faible, aux rebelles Taiping au sud, de mieux en mieux organisés, tout cela dans un pays qui avait connu une croissance démographique gigantesque au cours du siècle écoulé. La population était passée d'environ 130 millions en 1720 à près de 400 millions dans les années 1840, et qui était ravagée par l'opium et les risques de famine. D'après les estimations disponibles, la révolte des Taiping aurait causé entre 20 et 30 millions de morts militaires et civiles entre 1850 et 1864, soit davantage que tous les morts cumulés des différents pays impliqués au cours de la Première Guerre mondiale, entre 15 et 20 millions de morts. Des recherches ont montré que les régions chinoises les plus touchées n'ont par la suite jamais totalement compensé leur retard de croissance démographique et ont connu un état de rébellion rurale et de lutte armée quasi permanent jusqu'à la chute de l'Empire. Dans un premier temps, les puissances occidentales adoptèrent une attitude de neutralité face au conflit. Cela tenait notamment aux références christiques et messianiques du leader de la rébellion Taiping, ce qui lui valait des sympathies dans les pays chrétiens, et notamment aux États-Unis, où l'opinion aurait mal compris que l'on soutienne l'empereur Qing, réputé insuffisamment ouvert aux missionnaires. En Europe, certains socialistes et républicains radicaux voyaient dans cette révolte une sorte d'équivalent chinois de la Révolution française, mais cela eut un impact moins important. À partir du moment où les Taiping se mirent à remettre radicalement en cause le droit de propriété et à menacer durablement le commerce et le paiement des dettes aux Occidentaux que les Franco-Britanniques venaient d'imposer suite au sac de Pékin en 1860, les puissances européennes décidèrent de prendre fait et cause pour l'État Qing. Leur soutien eut un impact sans doute décisif sur la victoire finale des forces impériales sur les rebelles en 1862-1864. Tout cela en pleine guerre civile états-unienne, ce qui facilita d'ailleurs l'intervention européenne à un moment où l'attention des milieux chrétiens états-uniens était occupée par d'autres événements. Si la rébellion avait triomphé, il est bien difficile de prédire comment aurait évolué la structure politique et les frontières de la Chine depuis lors. À la fin du XIXe siècle, la légitimité morale de l'État Qing, de son empereur comme de ses différentes élites, noblesse guerrière, mandarin lettré, était tombé à un point extrêmement bas auprès de l'opinion chinoise. Le pays avait dû accepter toute une série de traités inégaux avec les Européens et se retrouvait à devoir augmenter fortement les impôts acquittés par sa population afin de pouvoir rembourser aux Occidentaux et à leurs banquiers ce qui était ni plus ni moins qu'un tribut militaire, ainsi que les intérêts cumulés produits par ce tribut. Dans un tel contexte, la défaite chinoise en 1895 face au Japon, qui depuis des millénaires avait été dominé militairement et culturellement par la Chine, et la mainmise nippone sur la Corée et Taïwan apparaissaient comme le coup de trop pour les Qing. En 1899-1901, la révolte des Boxers, fomentée par les Points de la Justice et de la Concorde, société secrète dont le symbole était un point fermé et qui luttait à la fois pour la destruction du pouvoir féodal et impérial mandchou et l'expulsion des étrangers, faillit de nouveau faire chuter le régime. Les puissances occidentales, menacées dans leurs concessions territoriales, aidèrent l'État Qing à mater la révolte et expérimentèrent une forme inédite de gouvernement international en 1900-1902 à Tianjin, à l'embouchure stratégique commandant Pékin. Pas moins de 10 puissances coloniales, déjà établies en Chine ou nouvellement venues au festin, se partagèrent le pouvoir au sein d'une administration chargée notamment de liquider les derniers rebelles boxeurs. Les archives de cet étonnant gouvernement indiquent la présence de troupes françaises et allemandes particulièrement brutales et indisciplinées, sans cesse accusées de viols et de rapines par la population locale, aussi violente et méprisante avec les Chinois qu'avec les soldats indiens que les Britanniques avaient fait venir du Raj, et dont les Chinois eux-mêmes appréciaient peu le contact. Les comités regroupant des représentants des différentes puissances durent trancher toutes sortes de questions économiques et légales complexes, concernant le ravitaillement de la ville ou l'organisation des tribunaux et des bordels militaires. Après moult débats, notamment entre Français et Japonais, l'âge minimal pour la prostitution de jeunes Chinoises fut par exemple fixé à 13 ans, alors qu'il venait de passer de 13 à 16 ans au Royaume-Uni en 1885. Au moment de partir et de remettre le pouvoir à l'État Qing en 1902, les journaux et les lettres des soldats français qui s'étaient illustrés par leur sauvagerie attestent de leur tristesse à devoir retourner en métropole, jouer de nouveau un rôle de prolétaire, après ces longs mois enivrants et divertissants passés à occuper la Chine. Les pays occupants comprenaient le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, le Japon, l'Autriche-Hongrie, l'Italie, la Belgique et le Danemark. La révolution de 1911 aboutit finalement à la chute de l'Empire et la mise en place de la République de Chine avec l'élection de Sun Yat-sen comme premier président par l'Assemblée réunie à Nankin. pour expliquer le triomphe final des communistes et le passage de la République bourgeoise de 1911 à la République populaire de 1949, à l'issue de près de 4 décennies de quasi-guerre civile entre nationalistes, finalement réfugiés à Taïwan en 49, et communistes, et de lutte contre les occupants japonais et occidentaux, il est tentant d'évoquer le caractère excessivement conservateur du régime mis en place en 1911-1912, sans doute peu conforme aux aspirations des paysans chinois à la redistribution des terres et à l'égalité après des siècles de régime inégalitaire Qing. De fait, Sun Yat-sen était un médecin anglican républicain et anti-manchou, mais relativement conservateur sur les questions économiques et sociales, et la plupart des révolutionnaires bourgeois de 1911 partageaient son respect pour l'ordre établi et le droit de propriété, à partir du moment où l'ancienne classe guerrière était privée de ses privilèges indus. La constitution chinoise de 1911 était de ce point de vue peu innovante. Elle sanctuarisait les droits de propriété acquis dans le passé et rendait quasiment impossible toute redistribution dans un cadre légal apaisé, à la différence par exemple de la constitution mexicaine de 1910 ou de la constitution allemande de 1919, qui présentait la propriété comme une institution sociale au service de l'intérêt général et envisageait la possibilité que les assemblées législatives redéfinissent les conditions d'exercice du droit de propriété et mettent en place, le cas échéant, de vastes réformes agraires ou d'autres limitations motivées des droits de propriétaires. Le président Sun Yat-sen fut lui-même expulsé du pouvoir et remplacé par le général impérial Yuan Shikai dès 1912, sous la pression des Occidentaux, qui considérait qu'un pouvoir militaire fort serait mieux à même de maintenir l'ordre en Chine et d'assurer les rentrées fiscales et les remboursements de dettes et d'intérêts aux puissances coloniales. Compte tenu de la complexité du déroulé des événements et des mobilisations politico-idéologiques, militaires et populaires qui se déroulèrent en Chine au cours des années 1911-1949, il serait cependant peu crédible de voir dans l'avènement de la République populaire la conséquence déterministe et inéluctable des insuffisances de la République bourgeoise de 1911-1912 et du profond sentiment d'injustice, à la fois anti-impérial, anti-propriétariste et anti-mandarin, accumulé par la masse de la population paysanne chinoise au cours des siècles précédents. Bien d'autres évolutions auraient pu se produire, à commencer par diverses formes de république sociale et démocratique. Nous verrons également dans la prochaine partie à quel point l'avènement d'une république communiste en Chine laissait ouverte, et laisse toujours ouverte aujourd'hui, une grande diversité de trajectoires politico-idéologiques et institutionnelles possibles. L'étude de la transformation du régime inégalitaire trifonctionnel chinois en un régime propriétariste puis communiste, comme celle des autres régions inégalitaires, doit d'abord être vue comme un ensemble d'expériences sociopolitiques riches en bifurcations inachevées et en enseignements pour l'avenir. Un exemple de république cléricale constitutionnelle, l'Iran. Évoquons enfin le cas de l'Iran, qui offre l'exemple inédit d'une constitutionnalisation tardive du pouvoir clérical avec la création en 1979 de la République islamique, régime fragile, mais toujours en place à la fin des années 2010. Comme tous les événements de ce type, la révolution iranienne est due à un ensemble de facteurs et d'événements plus ou moins contingents qui auraient fort bien pu s'agencer différemment. La répulsion suscitée dans la population par le dernier shah d'Iran, l'empereur Mohammad Reza Pahlavi, et par sa connivence avec les Occidentaux et leurs compagnies pétrolières, joua un rôle particulièrement important, de même que l'habileté tactique de l'imam Khomeini. Pourtant, au-delà de ces logiques événementielles particulières, le point important est que la possibilité même d'une république cléricale iranienne était liée à la forme spécifique prise par la structure trifonctionnelle dans l'histoire de l'islam chiite et sunnite, et plus particulièrement au rôle joué par le clergé chiite dans la résistance au colonialisme. De façon générale, les sociétés musulmanes diffèrent depuis toujours par l'importance relative qu'elles accordent aux élites guerrières et militaires d'un côté et aux élites cléricales et intellectuelles de l'autre. Dès l'origine, les sunnites reconnaissent l'autorité du calife, choisi comme chef temporel et militaire pour diriger l'Oumma, la communauté des musulmans, alors que les chiites suivent l'imam, chef spirituel et religieux reconnu comme savant parmi les savants. Les sunnites reprochent à Ali, gendre du prophète, premier imam et quatrième calife, et à ses successeurs imams, d'avoir négligé l'autorité des califes et divisé la communauté. À l'inverse, les chiites vénèrent l'autorité des 12 premiers imams et ne pardonnent pas aux sunnites d'avoir entravé leur action unificatrice et de s'être rangés auprès de califes parfois brutaux et sans réelle connaissance de la religion. Après l'occultation du 12e imam en 874, les grands oulémas chiites renoncent temporairement au pouvoir temporel et publient, au XIe-XIIIe siècle, depuis les villes saintes chiites d'Irak, des recueils des traditions et des jugements prononcés par les 12 imams. Tous les croyants sont alors supposés égaux dans leur effort pour imiter l'exemple idéal des imams. L'équilibre politico-idéologique va être redéfini au XVIe siècle. Alors que le chiisme se limitait encore à quelques foyers à l'ouest de l'Iran, en Irak et au Liban, souvent au sein de populations pauvres sensibles au discours de dénonciation des puissants et des princes, statut social défavorisé que les minorités chiites, libanaises ou irakiennes ont d'ailleurs conservé jusqu'à nos jours, l'État safavide entreprend pour des raisons politico-religieuses de s'appuyer sur les oulémas chiites pour convertir l'ensemble de la Perse au chiisme. C'est ainsi que l'Iran devint le seul pays musulman presque entièrement chiite. Petit à petit, les oulémas chiites étendent leur pouvoir d'interprétation et justifient l'usage de la raison pour adapter et étendre les préceptes anciens. Leur rôle politique s'étend encore à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, à la fin des Safavides et au début des Qadjars, 1794-1925, quand les nouveaux souverains leur demandent par exemple de décréter le djihad contre les Russes et que les oulémas obtiennent confirmation de leur droit d'exécuter les sentences et de percevoir l'impôt. Depuis leur fief de Najaf, où se trouve le mausolée d'Ali au sud de Bagdad, Karbala, où a eu lieu le sacrifice d'Hussein, fils d'Ali, et Samara, où le 12e imam a disparu, les oulémas défient alors régulièrement les souverains perses et ottomans quand ils désapprouvent leurs actions et s'érigent en véritable contre-pouvoir. Au XIXe siècle, la doctrine se précise. Chaque chiite doit suivre un moudjahid, et le marja est le plus savant de tous les moudjahides, parfois avec des spécialisations suivant les domaines de sagesse et de compétence. L'avis du marja se transmet par contact direct avec lui ou par l'intermédiaire d'hommes l'ayant entendu s'exprimer. Il n'existe en général pas plus de 5 ou 6 marjas vivants dans tout le monde chiite. Passer du statut de moudjahid à celui de marja est l'œuvre de toute une vie et se décide sur la base de la sagesse et de la science religieuse, à la différence des ulémas sunnites qui se fondent sur une reconnaissance officielle par les pouvoirs temporels. De facto, sous les empires perses et ottomans des 18e-20e siècles, le statut d'extraterritorialité et de puissance morale, fiscale et militaire des villes saintes chiites d'Irak et d'Iran place le clergé chiite à la tête de quasi-États. Leur statut n'est pas incomparable à celui des États pontificaux dans l'Europe médiévale et moderne, à la différence importante près que la classe cléricale chiite est une véritable classe sociale à part entière, avec ses alliances matrimoniales entre familles de grands oulémas. Un petit-fils de Khomeini s'est par exemple marié à une petite-fille du grand marja Sistani, basé à Najaf. Ses enfants et ses propriétés, même si les détentions patrimoniales sont principalement organisées par l'intermédiaire des mosquées, des écoles, des services sociaux et de multiples fondations pieuses.